Bonjour, Monsieur Carbone.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Alors, je suis Julien Carbone. Je dirige le Port des Créateurs, qui est un incubateur culturel basé à Toulon, ouais, depuis 2016.
Quelles sont les activités qui ont lieu au Port des Créateurs? Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce qui s'y passe?
Alors, le Port des Créateurs, en fait, il a été imaginé à la manière d'un fonctionnement d'un tiers-lieu, en fait. Comme je l'ai dit, donc précédemment, on est un incubateur culturel, donc notre mission première, c'est d'accompagner les acteurs culturels du territoire, animer un écosystème, leur donner les outils matériels et immatériels pour développer leur activité, dans un souci de professionnalisation du secteur et des différentes filières que constituent la culture sur un territoire. Donc, pour être plus factuel, en fait, on accueille cet écosystème. Donc, on accueille des artistes, on accueille des porteurs de projets culturels, des designers, des architectes, des danseurs, des artistes plasticiens, des musiciens, des producteurs de musique, qui partagent un même lieu, des espaces communs, des espaces un peu plus privés, on va dire. Et puis, il y a toute une mutualisation d'outils de production, comme des studios images et son, une fabrique de design éditorial, des outils de production aussi qui sont tout simplement du matériel son, des choses comme ça. Et puis, il y a tout un accompagnement en termes de consulting sur l'économie, la communication, les institutions, les recherches de fonds privés-publics, des stratégies de développement de territoire, toutes ces questions-là, en fait, qui sont abordées un peu comme un incubateur de start-up, d'entreprise, en fait. Hein, sauf, on a spécialisé notre activité dans le domaine de la culture et des industries culturelles et créatives, ce qu'on appelle les ICC.
On a déjà une bonne idée de ce que représente le lieu pour la dynamique territoriale locale. Je crois avoir compris que vous avez travaillé sur plusieurs tiers-lieux avant d'arriver au Port des Créateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours?
Mon parcours, alors je suis arrivé il y a un peu plus d'une dizaine d'années sur Toulon, piloté plusieurs tiers-lieux, non, enfin en tout cas en amont du Port des Créateurs, on a développé un lieu qui est dans le même quartier d'ailleurs, hein, et qui a servi de lieu pilote, notamment à la réhabilitation du quartier, puisqu'il s'appelle le Métaxu, qui est ce qu'on pouvait appeler à l'époque, et ce qu'on peut toujours appeler aujourd'hui, un lieu intermédiaire. C'est un peu un artist-run space, un endroit où qui expérimente des territoires qui ne sont pas forcément pratiqués par le monde de la culture. Donc c'est quartier en requalification, qui donc accueille des artistes et qui les met en contact avec un public. Et un public qui n'a pas toujours accès à, notamment, en tout cas, c'est la problématique qui nous intéressait au sein du Métaxu, c'était l'art contemporain et la création contemporaine. Effectivement, et donc c'est un lieu qui a maintenant 8 ans d'existence, qui continue à exister avec d'autres artistes, avec d'autres porteurs de projets. Ça a été un bon test, en tout cas, pour voir s'il y avait matière à développer une activité comme celle du Port des Créateurs, qui est quand même conséquente, hein, puisqu'on développe nos activités sur plus de 1000 mètres carrés, enfin, 1200 mètres carrés de surface plateau. On accompagne sur différentes formes plus d'une quarantaine d'associations et de porteurs de projets. Les dimensions ne sont pas les mêmes, les budgets ne sont pas les mêmes et les missions sont plus élargies avec des compétences qui dépassent juste le territoire intra-urbain du cœur de ville, hein, puisqu'on agit à la fois sur la métropole mais aussi sur le département du Var avec un souci de rayonnement à la fois à l'échelle nationale et internationale. Notre but en 5 ans, ça a été aussi de tisser des liens avec d'autres structures similaires ou d'autres écosystèmes similaires à travers l'Europe et le monde.
Comment vous en êtes venu à devenir un acteur du tiers-lieu et de la culture?
À la fin des années 90, j'ai fait des études de communication à l'Université de Nice, donc dans un département qui s'appelait à l'époque Art Communication Langage, qui avait on va dire une approche de la communication et de la culture de manière assez holistique, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait à la fois y étudier la sociologie, la communication institutionnelle, la communication publicitaire, la vidéo, les prémices de l'Internet, en tout cas ce qui aujourd'hui est assez florissant à la fois dans l'entreprise et dans notre société, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intelligence collective, comment on fait société ensemble. Voilà, c'était quelque chose d'assez passionnant avec un ensemble d'étudiants aussi assez conséquent pour l'époque. Je me souviens, je crois qu'en première année, il y avait presque 800 étudiants, c'était énorme. tout cas, j'ai commencé mes études là-bas et beaucoup d'enseignants et de professeurs m'ont inspiré. Par la suite, j'ai collaboré et travaillé pour différents artistes pour enfin arriver, comme je vous l'ai dit, un peu plus d'une dizaine d'années à Toulon. Donc, c'était une ville qui était assez intéressante de par son retard par rapport à d'autres villes similaires. C'est-à-dire qu'on peut considérer que Toulon a presque 20 ans de retard sur une ville comme Nantes, Aix, Nice. Et donc finalement, un terrain d'expérimentation et un champ des possibles assez extraordinaire, puisque tout était à faire. En tout cas, mon parcours professionnel m'a amené avec une équipe. Hein. Je ne suis pas tout seul, il faut le savoir. Hein. Donc, on est vraiment dans un process d'intelligence collective, à la fois avec mon équipe et puis avec les élus qui sont sur le terrain, pour déployer des outils qui permettent de soutenir et de développer un écosystème culturel assez fort afin de faire en sorte que la ville puisse en bénéficier, son économie, son territoire, son public, et qu'on s'y sente bien à Toulon. Donc voilà. Et le fait que Toulon ait 20 ans de retard, Ça laisse à la fois la possibilité d'aller voir ailleurs ce qui s'est fait, de faire un gros effort de benchmarking et d'essayer d'adapter certaines expériences à Toulon. Et donc, du coup, tenter d'innover aussi. Et ça, je pense que c'est ultra important. Innover dans ce monde-là, enfin, en tout cas, dans l'univers de la culture, on le voit encore plus aujourd'hui qu'hier, c'est-à-dire aujourd'hui où on est en pleine crise sanitaire. Il est important de se repenser, de repenser le monde et l'économie de la culture.
Vous pensez que le tiers-lieu a une place particulière, par exemple à Toulon, qui aurait 20 ans de retard et que permettrait, par exemple, d'essayer de reproduire des systèmes qui ont fait leurs preuves déjà ailleurs, mais adaptés cette fois au territoire local, à la ville, de façon à permettre d'accélérer le développement de la ville à ce niveau-là?
Alors, même si Toulon avait 20 ans de retard, il faut savoir que Toulon était doté d'une entité, d'un outil de développement de territoire qui était presque en avance sur d'autres territoires. Cet outil s'appelle TVT Innovation. Un incubateur de start-up, hein, en fait, un accompagnateur de l'économie d'un territoire, donc Toulon Bar Technologie Innovation, et donc il y a 30 ans d'expérience. 30 ans, c'est énorme, surtout dans le domaine de l'innovation. Ils sont vraiment des acteurs très présents à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Et c'est un peu notre grande sœur au corps des créateurs, puisqu'on s'est beaucoup inspiré des différentes stratégies qu'ils ont mis en place pour asseoir et accompagner l'univers de l'entreprise, et on l'a appliqué au monde de l'économie culturelle, en fait. Hein. Et c'est-à-dire arriver avec un langage qui est celui de l'entrepreneuriat de l'économie dans le monde de la création et des artistes, c'est pas toujours simple. Et donc rien de ce fait-là, en fait, il y avait une action innovante, en fait. Hein. C'est-à-dire comment on s'adresse à des artistes, à des créateurs, afin de pouvoir leur donner des outils, afin de créer un système économique beaucoup plus vertueux pour eux, en fait. Hein. On est quand même dans un pays, la France, où le monde de la culture et les artistes sont très soutenus historiquement. C'est-à-dire qu'on est un des rares pays, on parle de spécificités culturelles françaises, hein, c'est pas pour rien, hein, les dotations publiques sont énormes en France comparé à d'autres pays, et ça on sait depuis maintenant presque 20 ans que bah, tout ça se délite, hein, l'État n'arrive plus à abonder aussi frugalement dans l'économie de la culture, et bah, il faut repenser ce système. Il faut repenser ça, il faut professionnaliser. Alors, il y a des filières, hein, dans le monde de la culture qui sont beaucoup mieux structurées économiquement, professionnellement que d'autres. Je pense notamment quand on met en regard le monde du cinéma et le monde des arts plastiques, par exemple. Voilà, c'est deux univers très différents. Hein. Un qui est extrêmement structuré à la fois socialement et professionnellement. L'autre qui est beaucoup moins, avec beaucoup plus de précarité. Et c'est ça qui va en fait nous intéresser, comment on va pouvoir aller puiser l'expérience de l'un pour alimenter le futur de l'autre. Et ce que je disais, c'est qu'effectivement, l'importance de la manière de penser d'un tiers-lieu, c'est comment on crée de la synergie, du contact, du lien, comment on mélange ces différents sujets d'un même système afin de générer à travers le processus d'intelligence collective quelque chose qui est vertueux pour un territoire, en fait. Et c'est ce qui intéresse d'autant plus aujourd'hui l'État qu'il essaime ces concepts de tiers-lieu à travers différentes filières, différents écosystèmes, que ce soit le développement durable, que ce soit l'innovation depuis plus longtemps, l'entreprise et l'innovation. Quand on voit les lieux de coworking, d'incubateurs de start-up, c'est beaucoup plus ancien, mais c'est là où on peut aller puiser des modèles qui ont été expérimentés. Quand on a ouvert les portes du port des créateurs il y a 5 ans, on était certainement une des seules entités à pouvoir proposer ce service sur le territoire français. On voit depuis maintenant un an et demi, deux ans, des modèles similaires. Voilà, moi, je pense notamment à Hôtel 71 à Lyon, avec cet incubateur culturel qui est spécialisé. Alors, il y a ça aussi, hein, c'est-à-dire il y a des lieux qui spécialisent dans certaines filières. Pôle ailleurs, à Nantes aussi, il en existe, avec Pollen. Bon, voilà, il y a des différentes structures comme ça, avec leurs spécificités, parce que je pense que ce qui est important aussi dans l'idée des tiers-lieux, c'est endémique à un territoire, c'est-à-dire à la fois les acteurs qui font le tiers-lieu, et là, je ne parle pas juste des équipes qui pilotent, mais aussi les personnes qui habitent le tiers-lieu, qui le font vivre, les usagers de ces tiers-lieux, eh bien, ils sont profondément ancrés sur le territoire et à la fois très mobiles et très souples. Donc, c'est ça qui est extrêmement bénéfique à une économie, à un territoire et également à un public. Donc, du coup, parce qu'ils voient leur territoire changer et évoluer, ils rencontrent de nouvelles formes, de nouvelles initiatives et c'est ça qui est fort.
Comment intervient la ville, la préfecture, la DRAC, comment elle intervient justement sur ces acteurs qui se forment et qui se rassemblent?
Voilà, c'est toute l'importance d'un outil comme le port des créateurs, c'est-à-dire qu'on est catalyseur de ces acteurs, c'est-à-dire comment on arrive à faire un jeu de lobbying et de comment dire, de promotion de l'ensemble de tous ces petits acteurs, petits, moyens et grands acteurs, c'est ça, parce que ça se mélange en fait, ça discute, ça échange, ça imagine ensemble, du coup ça crée des synergies. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, il y a un intérêt très fort de l'État vis-à-vis de ces fameux tiers-lieux, hein, parce que c'est aussi un lien plus fort avec la population. C'est-à-dire qu'en gros, c'est plus facile d'accès qu'une scène nationale. C'est pas juste on vient voir un spectacle. Non, c'est autre chose. On y trouve autre chose. On y trouve du lien. On y trouve des outils de formation. On y trouve des outils de professionnalisation. C'est-à-dire que, bien entendu, on a écrit tout le projet, on l'a imaginé, on y a mis qu'on y pensait de bon dedans. On a essayé de faire en sorte que ça soit innovant, mais avant tout, c'était une volonté de la ville de Toulon d'avoir cet équipement-là, là où on est en fait, en plein cœur de ville. C'est ça aussi qui est assez fort à Toulon, c'est-à-dire que la plupart du temps, ces lieux se retrouvent en périphérie de ville, dans des anciennes friches industrielles ou des lieux à réhabiliter. Nous, on est en plein cœur de la vieille ville, parce que c'était l'endroit où il fallait agir, toucher une population qui est assez hétérogène. Donc, c'est une force de frappe qui est non négligeable. On est situé de manière très stratégique par rapport au territoire de la métropole. L'idée est aussi de fédérer les différentes instances publiques, c'est-à-dire que petit à petit, quand on conçoit et qu'on avance, on essaye de fédérer les différentes les puissances publiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre projet, il est soutenu à la fois par la mairie financièrement, bien entendu, il est soutenu par la région, par le département et depuis peu par l'État. Et c'est encore plus intéressant quand on arrive aussi à fédérer l'économie privée, en fait, hein, c'est-à-dire quand on a aussi des entreprises qui s'intéressent à ce qu'on fait et ce qui permet d'avoir quelque chose de vraiment très englobant et on sent qu'on a un impact sur la société, quoi.
Comme vous l'avez remarqué, justement, il y a un engouement qui est très fort pour les tiers-lieux, et ce, à différentes échelles, que ce soit à une échelle locale avec les collectivités, que ce soit à une échelle un peu plus supérieure avec les entreprises, les entrepreneurs, et en même temps avec une échelle nationale avec le nouvel AMI et les appels à projets. Au milieu de tout ça, se tissent des réseaux, des liens entre les acteurs de tiers-lieux et les entrepreneurs, l'État. Quelle serait la place du port des créateurs au niveau de tous ces liens, au sein de tous ces réseaux qui se créent?
Par exemple, nous, ce qu'on essaye de construire à Toulon, c'est comment on arrive à accompagner au mieux une filière, un écosystème. Et donc, la manière dont on l'a pensé, c'est partir du commencement et d'essayer de faire en sorte plus simple, plus clairvoyant. Un des premiers jeux qu'on a fait avec le territoire, c'est d'aller conventionner avec ces écoles, avec les conservatoires, avec les écoles de design, avec les écoles de beaux-arts, afin de pouvoir, dès la sortie d'école, voire même avant, faire en sorte que ces futurs professionnels ils sachent qu'il existe un lieu comme ça, qui peut les accompagner dans leur structuration professionnelle. C'est des cycles de formation qu'on met en place, c'est un accompagnement, c'est la question de comment on le connecte à la vie économique d'un territoire, à l'écosystème culturel. Et donc, c'est le faire savoir, en fait. C'est faire savoir que ces acteurs, ils existent, ils agissent en synergie et qu'ils dynamisent quelque part l'endroit où ils sont. Ils génèrent de l'argent, de l'économie, ils génèrent de la culture, du lien social. Et ça, c'est mettre en lumière tous ces facteurs qui font qu'un territoire est riche de ces initiatives.
Mais merci beaucoup d'avoir
Ah,
développé ça, hein, parce que du coup, là, vous m'expliquez
okay.
comment le port des créateurs réussit à créer une dynamique et s'insère au niveau des acteurs locaux, surtout. Cela dit, est-ce que ça vous dérange si on reprend
Oui, bien sûr, bien sûr.
sur les réseaux de tiers-lieux? Enfin, c'est pour ça que j'ai parlé de
Réseau de
différentes
tiers-lieux,
échelles,
bien sûr.
de la
Bah, je pense
labellisation
que c'est.
des réseaux.
Ouais. Donc, c'est vraiment par rapport à l'AMI, non?
Entre autres, oui, l'AMI,
D'accord.
je
C'est
pense
tout.
aussi.
Aujourd'hui, l'État s'intéresse à ce qu'est un tiers-lieu. Et donc, du coup, oui, dis-moi, Yann.
Oui, je pensais à
Tu
l'AMI et
disais?
également ce que faisaient les autres régions, c'est-à-dire au niveau de la coopérative
Ouais.
des tiers-lieux, par exemple, l'association France Tiers-lieux. Oui, quelle est la place du port des créateurs dans tout ça?
Quelle est l'initiative de la coopérative des tiers-lieux? Quelle est l'initiative de l'AMI? Aujourd'hui, les instances s'intéressent à ce que génèrent les tiers-lieux. Donc, finalement, ce que j'ai dit auparavant est important. Et des outils comme la coopérative du tiers-lieu ou la labellisation AMI permet de légitimer l'existence de ces lieux qui, jusqu'à présent, ne donnaient pas une grande lisibilité de ce que c'était en fait. Et on avait du mal à classifier en fait ce qu'étaient ces lieux. Donc voilà. Et comme je disais tout à l'heure, ils sont souvent avec des caractéristiques, pardon, très endémiques, toujours des. Et donc le label de l'AMI permet de dire ben voilà ce qu'est un tiers-lieu. Alors après, il ne faut pas que ça soit restrictif non plus. Et la coopérative des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine, c'est une région qui est extrêmement en avant sur la question et sur la question de la structuration des filières. Je pense que il y a un lien très étroit entre à la fois la structuration des filières et ces fameux lieux parce qu'ils favorisent la structuration des filières. Donc la Nouvelle-Aquitaine, effectivement, a été un territoire pilote pour ça. Et donc, ils se sont très vite structurés, toujours là aussi dans un processus d'intelligence collective en coopérative, et qui permet effectivement de tisser un maillage sur un territoire. C'est ce que recherche aussi la labellisation de l'AMI, hein, c'est tisser un maillage sur le territoire afin qu'il y ait un réel accessibilité à ces lieux, à la fois pour un public et à la fois pour des différents écosystèmes économiques, entrepreneuriaux, etc., etc. Et l'AMI sert aussi maillage dans le. Dans l'image des pratiques du numérique. Ça, c'est une spécificité propre à cet AMI, qui n'est pas spécifique à tous les tiers-lieux aussi. Hein, donc attention à ça. Mais voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut que l'AMI ne soit pas forcément toujours très restrictive. Sinon, ça ne sera pas bénéfique, je pense. Et ça, c'est mon avis de professionnel. Et donc la place du port des créateurs dans ce déploiement-là. De ce qu'est un tiers-lieu sur le territoire national. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on a été en 2015 un lieu pilote pour ces initiatives-là. Aujourd'hui, moi, j'ai un peu de mal à me positionner par rapport à la vie. Voilà, j'ai l'impression justement qu'il y a une certaine forme de regard un peu restreint sur la question des tiers-lieux, qui est quelque chose de beaucoup plus large en termes de spectre. Je ne sais pas si je t'ai bien répondu sur la question de l'AMI.
C'est une question plutôt
Oui.
large. Je serais content que vous m'en ayez parlé vraiment en profondeur comme ça, parce que c'est l'appel à projet le plus conséquent. C'est vraiment ce qui est en train de modifier la vision de la France des tiers-lieux.
Après, si tu veux, ce qui me semble important sur la question pour revenir sur juste un tout petit point sur la question des réseaux et de la mise en réseau, forcément, elle est importante. Et ça, j'ai envie de dire, ce qui est intrinsèque à la question des tiers-lieux, c'est-à-dire qu'un tiers-lieu ne peut pas fonctionner en autarcie. Dès le début, nous, on a cherché à voir ce qui se faisait ailleurs. Et donc, du coup, en rentrant en contact, collabore. Je sais qu'on a ouvert le port des créateurs, on a été en contact avec un autre tiers-lieu à Paris, où on a fait de l'échange de compétences et à la fois de vision. Et ça, pour moi, c'est de l'intelligence collective. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui ne peut pas aller sans dans la dimension des tiers-lieux. On ne peut que fonctionner en réseau. Et ça me semble évident, en fait. Et non pas à l'échelle juste de la France, mais à l'échelle nationale, enfin européenne, quoi. Donc,